Des analyses sur le monde sans frontières. Savoir et comprendre l'international. Guillaume Lavoie.
Dans tout ce bordel judiciaire signé Donald Trump, il y a un mot qui revient souvent, puis c'est le grand jury. C'est quoi le grand jury? Évidemment, Guillaume Lavoie, il y a réponse à toutes. Guillaume Lavoie, c'est quoi le grand jury?
Tu poses une bonne question, Yasmine, parce que on entend souvent ça, et c'est certainement dans les expressions qui sont impossibles à traduire, pas de l'anglais au français, mais qui n'a aucun comparable et aucune justification dans notre système judiciaire à nous. Donc, on est obligé de remonter, faisons comme Sol, puis remontons aux souches. C'est une tradition britannique du 12e siècle à peu près, où le roi avait à peu près tout le pouvoir. Et là, on avait créé ça comme étant le grand bouclier pour protéger le peuple, pour éviter que quelqu'un qui a tout le pouvoir d'accuser puisse le faire parce qu'il vous aime pas ou autre. Mais on crée une étape en amont. Et là, revenons un peu en arrière, là, parce que le grand jury a rien à voir avec ce que nous, on appelle un procès devant jury. Le grand jury, c'est une étape en amont des procédures et sa seule et unique raison d'être, c'est de savoir si on donne au procureur le go ou pas le go pour engager des accusations. Donc, en gros, là, le but du grand jury, c'est d'être une genre de chambre d'écho à qui on va présenter un paquet d'éléments. Et là, sur la base d'un vote, qui n'est pas à l'unanimité en passant, sur la base d'un vote, on va lui demander, ben, est-ce qu'on peut porter des accusations ou pas? Et au niveau des États, on peut utiliser un grand jury ou pas, mais au niveau fédéral, c'est 100% du temps que ça prend un grand jury. C'est même écrit dans la Constitution. Ah. Au 5e amendement, ça dit, faut toujours avoir sa Constitution avec soi, Yasmine, alors, au 5e amendement, on dit « Personne ne peut être mis en accusation avant qu'un grand jury ait entendu et recommandé de porter des accusations. » Alors, et un grand jury, bon, typiquement, nous, un procès devant jury, c'est 12 personnes, là, repensez, et ça existe aux États-Unis, 12 hommes en colère, des grands films de jury. Là, c'est beaucoup plus... Et le nom « grand » vient du nombre. C'est entre 16 et 23 personnes à qui on va présenter les éléments et qui vont décider si on porte des accusations ou pas. Et c'est quand même particulier. Il y a juste deux pays dans le monde où ça existe. Maintenant, c'est aux États-Unis et au Libéria, qui est une république qui a été créée par des anciens esclaves qui ont quitté les États-Unis pour se recréer un nirvana en Afrique. Et c'est là où ça existe. Et l'idée, justement, imaginez par exemple que chez nous, là, le procureur puisse porter des accusations comme bon lui semble, c'est votre voisin, puis là, ben vous avez volé sa poubelle sans lui dire, là, votre fils a volé son journal, il décide de vous accuser de tous les maux. Quelqu'un qui a du pouvoir peut en abuser, et cette philosophie-là, c'est la base de la République américaine. Nous, ça en surprendra peut-être certains, c'est un Britannique, Québécois, Canadien, est construit sur une relative confiance dans les institutions. Hein, le gouvernement est là pour faire le bien, peut-être dans certains cas essayer de l'avoir, mais dans 4 ans, je peux le mettre dehors. Aux États-Unis, on a construit le gouvernement américain et ses lois pour nous protéger de l'abus des institutions politiques contre les libertés des citoyens. Donc, pour se protéger d'une potentielle dérape partisane des procureurs, bien, on doit passer devant un grand jury avant. Mais je vous dirais que...
Mais est-ce qu'ils ont un pouvoir de recommandation ou est-ce que c'est le grand jury qui détermine les accusations?
Non, alors c'est là où je pense pas que ce soit le meilleur système judiciaire au monde, là. Parce que d'abord, le grand jury, lui, qui lui présente des informations, là, c'est pas, comme dirait Bernard Landry, au di alteram partem. Il y a juste le procureur qui présente devant le grand jury. Puis lui, il est le seul. L'avocat de la défense, il fait pas partie de l'équation, là. Si moi, j'étais la personne visée par un grand jury, je serais jamais appelé par ces gens-là, là. Je peux avoir un paquet de témoignages que je peux appeler. Alors, le procureur, il gère son bateau pas mal tout seul, tellement qu'un juge avait dit, ou c'est une rumeur qu'un juge avait dit, Un procureur peut convaincre un grand jury d'accuser un sandwich au jambon d'à peu près n'importe quoi. Alors, évidemment que les dés sont un peu pipés en faveur de l'argument du procureur. Pas toujours. Aussi, l'autre enjeu qui porte à confusion, c'est la barre à franchir. Dans un procès criminel, il faut que tous les membres du jury soient d'accord que vous êtes coupable hors de tout doute raisonnable. Ça, c'est pour la condamnation. Mais pour un grand jury, ça me prend, selon les cas, un minimum de 12, ou un minimum du 2/3, ou un minimum des 3/4 des gens. Donc, c'est à majorité pour aller de l'avant ou pas. Alors, on pourrait dire, c'est génial, ça me protège contre un abus du procureur. Mais le procureur, il a beaucoup, beaucoup de temps de glace pour montrer son cas, là.
Et personne ne peut le contredire.
Un grand jury pourrait dire, finalement, on vous a pas cru et autres. Puis là, gagner un processus de grand jury, c'est intéressant, mais c'est un processus qui est aussi 100% secret. Et on pourrait dire, il n'y a pas de justice derrière des portes closes, là. Alors, c'est comme si, chez nous, c'est le directeur des poursuites pénales, là. Puis là, criminel, je vais l'échapper encore, tu m'aideras. C'est le DPCP. En tout cas, c'est l'acronyme qui décide. Alors, le procureur, avec les preuves, avec ce que la police a ramassé, est-ce que j'en ai assez pour aller de l'avant à porter des accusations? Et après ça, le procès commence. Et là, ben, dès que le procès commence, la preuve doit être dévoilée et tout ça. Là, c'est pas ça qui se passe. Et là, Trump, s'il trouve que le grand jury à New York, c'est fatigant, c'est de ça qu'on attend là les réponses cette semaine, ben, il y en a un autre qui l'attend au fédéral, puis il y en a un autre qui l'attend en Géorgie. Alors, surprenez-vous pas, quand on entend enquête ou processus de grand jury, c'est un processus en amont qui n'a pour but que de décider est-ce que je dépose des accusations ou pas. Et évidemment, déposer des accusations, ça ne veut pas dire coupable.
Non, on part en procès, mais il y aura arrestation, souvent.
Oui. Oui, parce qu'à partir du moment où on est accusé, ben là, tu dois te présenter, puis là, c'est le festival, les empreintes digitales, l'ADN et la belle collection de photos, souvenirs, de face et de profil.
J'ai hâte de voir qu'est-ce que le grand jury à New York va déterminer dans le cas de Donald Trump, parce que lui, il veut avoir les menottes, il veut cette image de martyr et il risque de l'utiliser et d'avoir finalement une séance de prise de photos pour sa campagne électorale un peu gratuite et facile à mettre la main dessus. Sinon, parlons de l'Ukraine. Des armes, devrait-on envoyer des armes en Ukraine, des armes encore plus importantes que celles qu'on a déjà envoyées? À quel moment le oui devient non?
c'est fascinant parce que là, ça va bientôt faire là, un an et quart, un an et demi, ce conflit-là. Et au départ, d'ailleurs, ceux qui disent, là, mais ils ont dit non, ils voudront pas donner d'armes. Par exemple, les Américains ont dit non, pas d'avions de chasse. Quand on analyse ça, là, au départ, des avions de chasse aux chars d'assaut, aux missiles, à la carabine à plomb, la réponse était toujours non, on veut pas amplifier le conflit, on veut pas envoyer des signaux belliqueux. Après ça, c'est devenu peut-être. Après ça, c'est devenu oui encore. Ça a été ça pour à peu près tout là. Et là, la ligne rouge avant était les chars d'assaut. Hein, on donnera pas de chars d'assaut. Là, le Canada s'est posé la question. Dans mon garage où j'en ai juste 7-8, est-ce qu'il y en a un qui fonctionne que je pourrais envoyer en Ukraine? Et alors là, les Américains avaient dit pour dédouaner les Allemands. Une mémoire historique un peu particulière, ils disent des chars allemands contre les Russes, c'est pas génial. Les États-Unis avaient accepté de dire quelque chose qui faisait aucun sens, c'est-à-dire on va envoyer nous notre super char, qui est le char Abrams, qui est pas un char ordinaire, c'est la Cadillac des chars d'assaut, c'est véritablement le meilleur sur le marché mondial, mais il fonctionne avec un moteur d'avion et avec du carburant d'avion. Un char d'assaut, ben il est aussi bon que tout l'écosystème que tu as pour le faire fonctionner.
Ah oui.
Il ne doit pas avoir beaucoup de stations d'essence d'avion à travers le territoire ukrainien. Là. Il n'y a pas beaucoup de mécaniciens spécialisés dans les moteurs d'avion versus les moteurs de chars d'assaut traditionnels. C'est pour ça que les Américains disaient, c'est pas ça que tu veux développer. Et en plus, il est tellement lourd qu'il y a un paquet de ponts en Ukraine qui ne pourraient pas le soutenir. Alors, les États-Unis disaient, non, il n'y en est pas question. Après ça, ils ont dit, oui, ben, personne n'y croyait parce qu'on s'est dit juste pour que les Allemands se dédouanent. C'est ça qui est arrivé. Et là, à la surprise générale, le Pentagone vient de dire, non seulement on dit un vrai oui, mais on veut accélérer et amplifier la livraison de chars Abrams. Et là, on se demande, est-ce que c'est vraiment pour mettre des chars américains Abrams sur le terrain ukrainien ou c'est pour envoyer encore un autre message aux Européens, faites-en plus, envoyez des chars Léopard et autres, sont presque tous de fabrication allemande anyways, et un message aussi, parce que s'il y a des sénateurs républicains qui disent que l'Ukraine s'arrange avec ses troubles, la majorité des sénateurs républicains disent « Moi, je veux que les États-Unis embarquent là-dedans. Là. » Et c'est David Brooks qui remarquait à PBS récemment, quand j'analyse ça, là, les États-Unis ont mis à peu près 50 milliards de dollars, peut-être un peu plus, 50 milliards de dollars pour détruire la moitié de l'arsenal russe. C'est peut-être pas cher payé, c'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle que ça. Et d'ailleurs, imaginez si l'Occident au complet a des problèmes d'approvisionnement de munitions et de matériel.
Ben oui.
Ça ne doit pas être plus facile du côté russe, là. Et les derniers chiffres qui viennent de sortir, Yasmine, c'est que Vladimir Poutine aurait perdu entre 40 et 50% des chars de l'arsenal russe dans le conflit ukrainien. Alors, là-dessus, si c'était le temps d'amplifier la chose, puis là, je parlais des avions de combat, ben là, on n'attend pas les États-Unis. Tous ceux qui ont des MiG, des avions de chasse de fabrication russe de l'ancienne autrefois, commencent à les envoyer. La Pologne, par exemple, la Slovaquie a dit « Moi, j'envoie les miens en Ukraine, à la disposition des Ukrainiens. » Puis là, même le Danemark réfléchit à faire pareil. Donc, peut-être que là, c'est intéressant de voir que les autres partenaires de l'OTAN, sauf le Canada, sont en avant de la courbe là, sur ce niveau-là.
Il va peut-être une opportunité pour mettre fin à ce conflit en anéantissant finalement l'armée russe plutôt que juste d'arriver à une solution qui soit négociée et concertée avec les Russes en faisant des concessions. Reste à voir si cette stratégie va être finalement payante, mais parce qu'elle risque aussi de faire de dommages si elle n'atteint pas l'objectif visé. Guillaume Lavoie, merci beaucoup. On se retrouve demain.
Au plaisir.
Au revoir.
Bye-bye.